Europe Soir Weekend,
Pierre de Villeneuve.
Dernière partie d'Europe Soir jusqu'à 20h, les débats de Panorama. Et c'est une période étrange où certains professionnels de l'immobilier vous disent le marché est complètement fou. D'autres vous disent on s'attend à une forte régression. D'autres au contraire vous disent les chiffres sont toujours aussi élevés, on vend toujours autant. En attendant, les prix ne baissent pas ou pas beaucoup. Les taux d'emprunt, eux, s'envolent. On est passé de environ 0,80 à 1,60 sur un prêt de 25 ans, le double. Vous vous rendez compte, en à peine un mois, on va en parler avec nos invités. Bonsoir à Guillaume Autier.
Bonsoir Pierre.
Président directeur général du groupe Meilleur Taux. Bonsoir à Eddy Jacquemart.
Oui, bonsoir.
Président de la Confédération nationale du logement. Et au téléphone avec nous, Christophe Demerson. Bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI. Guillaume Autier, question directe. Les taux ont augmenté en flèche. Pourquoi d'abord ?
Alors, il y a plusieurs phénomènes. Hein. Le premier phénomène, bien sûr, c'est un phénomène de contexte économique. Ce qu'on appelle le taux des OAT, c'est-à-dire le taux des emprunts d'État, a augmenté en fait encore plus que le taux des crédits immobiliers. On se souvient qu'il était négatif, on a connu ça, des taux négatifs, cette situation très très étrange.
Ce qui a permis le quoi qu'il en coûte d'ailleurs pour le gouvernement.
Ce qui a permis beaucoup de choses, qui a permis à beaucoup d'États de se financer. C'était il n'y a pas si longtemps, à la fin de l'année dernière, on avait des taux négatifs. Aujourd'hui, le taux des emprunts d'État, il est à peu près, il s'est stabilisé depuis quelques jours, autour de 1,50%. Donc quand vous parliez d'une augmentation de 0,80 à peu près, on voit que le taux des emprunts d'État, il a augmenté finalement encore plus. Après, les banques, eh bien, elles se refinancent dans les marchés. Donc le taux de marché, il a un impact sur le taux des crédits immobiliers. Il y a d'autres phénomènes, mais qui jouent finalement, on va dire, à la marge. Principalement, c'est un élément de contexte économique qui explique
d'accord.
cette augmentation des taux de crédit immobilier.
C'est à cause de la guerre en Ukraine, ça n'est pas entièrement vrai.
Il y a plusieurs phénomènes qui expliquent ça.
C'est pas la cause principale.
Évidemment, la guerre en Ukraine n'arrange pas les choses, mais ce qui fait qu'un État comme l'État français emprunte plus cher, c'est aussi que les investisseurs qui lui prêtent finissent par se dire il y a une petite prime de risque, peut-être que l'État s'est beaucoup endetté, il faut qu'il paye un petit peu plus cher. Donc il y a tous ces phénomènes qui jouent et qui expliquent l'augmentation des taux.
Cette augmentation des taux, elle va continuer ?
Alors nous, ce qu'on pense, c'est qu'elle va en effet probablement continuer. Je rappelle que la dernière fois qu'on a eu l'OAT, c'est-à-dire le taux de l'État à 1,50, c'était en 2014. Et à ce moment-là, le taux de crédit immobilier, il était à 3%. Donc on voit qu'aujourd'hui, comme vous disiez, il est autour de 1,60. Et donc probablement, si on applique un peu le même raisonnement, il peut encore augmenter, même si le taux au fond sans risque, le taux de l'État se stabilise. Et donc ça veut dire que pour les gens qui ont un projet, il ne faut pas s'attendre à ce que les taux rebaissent. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que les taux vont peut-être augmenter, en tout cas, ils ne vont pas baisser. Et donc, on est dans une situation dans laquelle on ne reverra probablement pas de si tôt, c'est en tout cas ce qu'on pense, des taux à 1% ou des taux à 0,8%. Et donc, si les gens ont un projet, il vaut mieux ne pas attendre.
Il vaut mieux y aller et se dire que, de toute façon, il y avait des taux, il n'y a pas si longtemps que ça encore. Ça dépend à quelle période on se réfère, mais effectivement, il y avait des taux à 2,5, 3, 3,5, 4 même.
C'est ça. 1,60, c'est finalement pas si élevé. Pour donner des chiffres, pour quelqu'un qui emprunte, on va dire 200 000 euros, ce qui est à peu près le prêt moyen, il y a pas si longtemps, finalement, on payait à peu près 1 000, on payait autour de 1 000 euros à peu près pour un emprunt à 20 ans. Et là, on va payer quelque chose comme 1 040 euros. Et donc l'augmentation, elle représente à peu près 40 euros de plus par mois. Pour faire simple, pour arrondir, ça fait à peu près 10 000 euros sur toute la durée du prêt. Alors c'est un montant qui n'est pas négligeable, 10 000 euros, mais c'est sur 20 ans. Quand c'est le projet de sa vie, 40 euros par mois, finalement, ça ne doit pas faire renoncer. Et surtout, on pense, nous, que ça ne va pas diminuer, donc il faut y aller si on a un projet.
Christophe Demerson, en quoi cette flambée des taux d'emprunt vous fait peur ou d'ailleurs ne vous fait pas peur ? J'en sais rien, moi.
Elle me fait pas peur, je l'observe comme tout le monde et j'écoute attentivement les conseils de Meilleur Taux. Alors c'est vrai qu'il y a trois types de problèmes, ce qu'on observe, donc ces trois types de problèmes. Chez les jeunes tout d'abord, les jeunes, ils n'ont pas d'argent, donc ils ont un problème d'apport. Après, c'est chez les plus âgés, là c'est un autre problème, c'est que comme ils sont souvent, ils ont des problématiques de pathologie, ils rentrent un petit peu dans l'âge ou à la retraite, et là s'ils veulent emprunter, là il y a une problématique d'assurance. Puisqu'à ce moment-là, quand on prend de l'âge, les taux d'assurance s'envolent et il est fréquent qu'on voit des gens qui payent beaucoup plus d'assurance que d'intérêt d'emprunt. Et puis enfin, la troisième problématique, mais celle-là, elle est plus sérieuse et peut-être que celle-là nous inquiète quand même à moyen terme, c'est la problématique pour les investisseurs. Parce que pour les investisseurs, les choses vont être beaucoup plus compliquées puisque c'est vrai qu'on regarde les banquiers et les courtiers regardent attentivement ce qui se passe, ils regardent le taux d'endettement et c'est vrai qu'il est figé à 35% et c'est vrai qu'on voit des gens qui ont des dossiers sans problème qui ne peuvent plus emprunter, qui ne peuvent plus investir.
Il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie et qui ont cette barrière du taux d'endettement à 35% et qui ne peuvent pas aller plus loin dans leur projet.
Exactement. Et ça, c'est une problématique qui nous inquiète à moyen terme, puisque vous le savez, eh bien, le logement aujourd'hui, c'est une vraie problématique, même s'il n'y a pas de ministre du logement, même si on l'espère. Mais c'est vrai que le sujet du logement a été un petit peu sous le tapis pendant la présidentielle. Mais ça nous inquiète parce que vous savez qu'il y a quand même une problématique qui se profile. La rénovation énergétique. Donc là, les propriétaires bailleurs, ils vont se tourner vers leurs banquiers ou vers leurs courtiers. Oui. Et là, il va y avoir des enjeux, puisque si la machine peut se gripper, déjà qu'elle est un petit peu grippée, puisqu'il y a une pénurie de matériaux et une pénurie de main-d'œuvre. Donc là, on regarde attentivement ce qui se passe.
Et dit Jacquemart.
Alors, ce qu'on peut dire, si vous donnez un dernier conseil.
Christophe Demerson. Pardon.
Oui, ce que je peux dire, si je donnais encore un conseil, c'est que, surtout chez les jeunes, moi, ça me frappe des fois, on voit des dossiers qui sont refusés pour très peu. Dans les familles, si les gens veulent donner, faire des donations, c'est peut-être le moment de donner même une petite somme à leurs enfants. Ce n'est pas à 60 ans ou 70 ans qu'ils auront besoin de l'argent. Et tout de suite, quand il va y avoir un peu d'apport, ça peut jouer, ça peut être intéressant pour les jeunes qui se lancent. Et je pense aussi que c'est peut-être sage, si on voit une bonne affaire, si on voit une opportunité, c'est peut-être sage de la saisir. Et puis enfin, il y a un dernier point. Nous, on avait soulevé ça à l'UNPI. C'est qu'on regarde toutes les petites taxes qui se mettent quand tout va bien, quand tous les clignotants sont ouverts. Je vous rappelle quand même qu'en 2019, il y a eu une nouvelle taxe. Au 1er janvier 2019, c'est pas si vieux, il y a eu une taxe de 9% sur l'assurance d'essai emprunteur. Tout le monde nous disait, ah ouais, c'est rien, 9% sur l'assurance d'essai emprunteur. Oui, sauf qu'aujourd'hui, sur des durées de 20, 25 ou plus, tous ces petites dizaines d'euros, elles font des sous en bout de ligne, et puis les jeunes, ils peuvent l'emprunter.
D'où les systèmes de délégation d'assurance, où on n'est pas obligé forcément de suivre sa banque pour également avoir ce crédit assurance dans la même banque. Eddy, Jacquemart, il y a problème pour les propriétaires, problème pour les locataires aussi, de fil en aiguille.
Oui, alors cette nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle en fait pour les locataires qui arrivent en fait... avec une inflation au plus haut pour l'instant, puisqu'on est à 2,48 actuellement en termes d'augmentation pour les loyers du privé. Donc ça veut dire que les locataires actuellement vont avoir une augmentation pour tous les baux, la date anniversaire de leur bail, vont avoir une augmentation de 2,48. Et si on imagine que les investisseurs en fait achètent plus cher, ça veut dire qu'ils vont automatiquement, à terme, répercuter le coût de l'emprunt dans le calcul de leur investissement et de leur loyer. Donc ça, pour nous, ça nous inquiète évidemment. Et un autre sujet également, c'est pour les locataires qui voulaient partir vers l'aventure de l'accession à la propriété. Donc quelquefois, c'est quand même des publics très fragiles qui ont des revenus modestes, qui sont quelquefois accompagnés dans des processus d'accession à la propriété sociale. Et si les taux augmentent, ça peut remettre en cause justement cette accession à la propriété.
Les taux augmentent et puis on l'a compris, sans apport, t'es mort. Hein, on pourrait presque avoir ce slogan-là. Je parle sur votre contrôle.
Il faut de l'apport aujourd'hui. Je pense que pour résumer, pour faire simple, en effet, pour concrétiser un projet de crédit immobilier, mettre toutes les chances de son côté, dans l'énorme majorité des cas, il faut de l'apport pour le quantifier, on dirait, autour de 15%. Et comme ça a été dit, je pense que c'est un très bon conseil, quand on se lance dans son projet, surtout si c'est son premier projet, et pourquoi ne pas faire le tour de sa famille, de ses amis, pour compléter un petit peu cet apport. Parce que c'est vrai que si on n'a pas du tout d'apport, il y a quelques années...
Vous vous rendez compte dans quelle situation on se met ? C'est-à-dire qu'on est en train de faire la manche auprès de sa famille. C'est une situation inédite ou est-ce que ça s'est déjà produit par le passé, ce genre de situation ?
On a eu en fait une période dans le crédit immobilier, on va dire, de ce qu'on appelle de 110%, c'est-à-dire où les banques finançaient les frais. Mais finalement, historiquement, je pense que les gens qui ont fait des crédits immobiliers il y a 20 ans, 25 ans, se souvenaient qu'il fallait mettre un petit peu d'apport. Dans la grande majorité des cas, il fallait mettre un petit peu d'apport. Donc on revient à cette situation. Et d'ailleurs, ce n'est pas la faute des banques, il faut le dire. C'est aussi parce que des règles sont arrivées, notamment au début de l'année 2020, juste avant le confinement. Il y a des nouvelles règles qui sont arrivées, qui ont mis un petit peu de pression sur les banques et qui ont dit maintenant, pour prêter, pour faire un crédit immobilier, vous devez exiger de votre emprunteur qu'il ait un apport. Et ce sont d'ailleurs les mêmes règles qui ont dit ce que votre invité a dit il y a un instant, c'est-à-dire quand on fait de l'investissement locatif. Auparavant, il y a encore 2-3 ans, on pouvait faire l'investissement locatif de façon assez large. Donc l'investissement locatif, c'est quand on a déjà un bien et qu'en fait on en achète un autre pour le louer, oui. pour le mettre en location. Et donc ça a un impact sur les locataires. Eh bien, les mêmes règles, les règles de Bercy, disons pour faire simple, hein, le terme technique c'est HCSF, des normes de début 2020, on dit, eh ben, quand j'ai deux crédits, celui pour ma maison et puis celui pour un investissement locatif, eh ben, c'est plus contraignant, je dois respecter la règle de 35%. Alors qu'avant, les banques, pour ce public-là, pour les investisseurs locatifs, eh ben, c'était plus souple, c'était plus simple. Eh bien, dorénavant, c'est 35%.
Mais ça allait jusqu'à 50%, ça ?
On pouvait aller jusqu'à 50%, comme vous disiez il y a un instant. C'est en général des gens qui n'ont pas tellement de problèmes, qui sont des bons risques, qui remboursent leur crédit. Et donc, c'est pour ça que les banques, avant, jusqu'à 2019, on va dire, leur prêtaient sans trop de difficultés jusqu'à, on va dire, 40%. 50%, c'était
mais
assez
c'est un
rare.
Regret. C'est un regret, à votre avis. Vous trouvez que finalement...
Oui. Nous, on a
vous
dit
trouvez que cette règle des 35% est
elle est,
une
elle est probablement
règle.
Trop rigide, on va dire, pour deux publics. Le premier public, c'est celui dont on vient de parler. L'investissement locatif, et donc ça se répercute sur les locataires, c'est normal d'assouplir un petit peu les règles parce qu'on parle voilà, de gens qui n'ont pas tellement de problèmes. Et donc, on pourrait autoriser ces gens à aller jusqu'à au-delà de 35%, à 40%. Il n'y avait pas de problème avant. Il y a une règle qui est arrivée. On se demande vraiment pourquoi. Il n'y avait pas tellement de problèmes.
Pour les problèmes de surendettement, peut-être
pour ce public-là qui fait l'investissement locatif, qui est déjà propriétaire, je rappelle, hein, c'est quelqu'un qui est déjà propriétaire, donc il a pas de risque finalement d'avoir des problèmes de logement.
Il y a toujours un risque, on peut perdre son boulot.
Oui,
on a des
chiffres, si vous voulez, là-dessus. Et on voyait que ce public d'investissement locatif ne comportait pas de risque. Et donc, il y a une règle qui est arrivée. Nous, on a dit à l'époque qu'elle freinerait l'investissement locatif, et donc probablement, on pourrait assouplir cette règle. Nous l'avons dit à l'époque, nous continuons de le dire. Le deuxième public qui a été concerné, c'est en effet les jeunes. C'est en effet les jeunes. Souvent, les jeunes, ils ont des revenus qui vont augmenter. Et donc, quand on calcule les 35% sur leurs revenus de début de carrière, eh ben, on met une contrainte très, très forte. Et donc, il y a beaucoup de banques qui disent bah, « j'aimerais bien assouplir un peu cette contrainte parce qu'un public jeune dont les revenus vont augmenter, peut-être que je peux lui prêter 40% parce qu'en fait, ce 40 va devenir 35. » Et c'est plus possible. Et c'est plus possible. Donc, nous, ce qu'on a dit, et c'est peut-être un message pour le nouveau gouvernement,
il vous entend.
Regardez ces deux publics.
Regardez ces deux publics. Voilà. Il n'y a toujours pas de ministre du logement, mais en tout cas, peut-être qu'à Bercy,
peut-être
on vous entend.
L'économie.
Guillaume Autier, Eddy Jacquemart et Christophe Demerson restent avec nous. Une première pause dans ce débat de panorama et on revient dans un instant.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
La folie des taux d'emprunt immobilier, enfin la folie puisque Guillaume Autier du groupe Bayer Taux a un peu, j'allais dire, ménagé ce slogan. On a l'impression que les taux reviennent comme dans les années 80 à 18%, on est quand même loin de ça. Christophe Demerson est là également pour l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Eddy Jacquemart pour la Confédération Nationale du Logement. C'est vrai que nous, on est un pays de propriétaires, mais pas que. Il y a beaucoup de locataires en France, et puis il y a d'autres pays où on est au contraire beaucoup plus locataires que chez nous.
Tout à fait. En fait, je crois qu'il faut avoir en tête que être propriétaire, c'est pas une fin en soi. La France, tous propriétaires, c'était le slogan de Valéry Giscard d'Estaing. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, être propriétaire, c'est quelquefois faire des sacrifices aussi sur son pouvoir d'achat. Donc je pense que le problème, c'est les loyers qui sont chers.
Vous savez aussi bien que moi que dans les barèmes bancaires, quand vous êtes dans une banque, si vous êtes propriétaire ou locataire, on ne vous regarde pas de la même façon.
Oui, ben
et
ça,
on ne vous prête
aussi,
pas de l'argent de la même façon.
C'est aussi des choses qu'il faudrait changer. Et je pense que être locataire dans certains pays, notamment en Suède, hein, puisque nous, la CNL, on est adhérent à l'Union Internationale des Locataires qui est présidée par une présidente suédoise, ils sont 80% de locataires. Pourquoi ? Parce que les loyers ne sont pas chers et que c'est une façon moderne d'habiter, et notamment pour l'économie aussi, puisque ça permet aussi d'avoir une meilleure flexibilité, de déménager plus facilement pour le travail, etc. Et donc, on avait aussi à un moment donné fait un article, un document en disant les 10 bonnes raisons d'être locataire, parce que finalement, être locataire, il y a beaucoup d'avantages. Et le problème en France, c'est qu'actuellement, les loyers sont tellement chers depuis plusieurs années, ils ont tellement explosé que finalement, on essaie de faire croire aux locataires que bah, ça serait bien qu'ils soient plutôt propriétaires. Moi, je dis souvent qu'un accédant à la propriété, c'est un locataire de la banque, tout simplement. Il va payer un crédit pendant 25 ans et au bout de 25 ans, sa maison qu'il aura achetée avec un tout petit apport parce qu'il n'aura pas beaucoup de sous, il va devoir refaire des travaux et refaire des crédits pour repayer en fait l'entretien de sa maison. Donc ça veut dire que finalement...
Et ensuite repayer des droits de succession pour les donner à ses enfants.
Il paiera toute sa vie. C'est sans fin.
Ouais.
Donc finalement, être locataire, c'est pas si mal que ça. Et c'est une façon moderne d'habiter dans un pays moderne.
Christophe Demerson, vous qui justement êtes l'Union Nationale des Propriétaires, c'est quoi le but d'être propriétaire en France ?
Ben alors, c'est vrai que autant j'étais d'accord sur la première partie du discours d'Eddie Jacquemart, autant là, je vous dis, je tombe un petit peu de ma chaise, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce modèle qui est prôné, le modèle dont on parle, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les loyers aujourd'hui sont chargés. Et quand on dit chargé, il ne faut pas oublier que la location, le locataire, le bailleur privé, il a déjà 17% de prélèvements sociaux, 17,6%, je répète, c'est pas rien. Et puis après, il a la taxe d'habitation. Alors, j'écoute que les loyers ont explosé. Les loyers, ils ont peut-être explosé, mais les taxes foncières, si elles ont explosé, c'est pas explosé, c'est surexplosé, puisque les taxes foncières, en 10 ans, c'est 3 fois l'inflation et 3 fois l'augmentation des loyers. Je ne sais pas si vous voyez que pour un propriétaire aujourd'hui, la taxe foncière tout seul, en moyenne, c'est 2,3 mois de loyer. Et après, naturellement, il s'ajoute l'impôt sur revenu. C'est pour ça que nous, on est là pour conseiller. Ça fait 120 ans qu'on est là pour conseiller les propriétaires. Et plus que jamais, on pense que les propriétaires doivent être conseillés ou chez nous ou par des professionnels, parce que je peux vous dire que les marges sont étroites. Et si les bailleurs privés n'étaient pas là, il y a beaucoup de gens qui seraient à la rue. D'ailleurs, les chiffres ne trompent pas, puisqu'il faut savoir que dans les populations les plus fragiles sont souvent logées chez les propriétaires particuliers.
Eddie Jacquemart, pour répondre.
Je voudrais simplement dire qu'en fait,
les
propriétaires bailleurs, il ne faut pas oublier non plus que la taxe foncière dont monsieur parle, elle est déductible de leurs revenus fonciers. Donc ça veut dire qu'ils ont le levier fiscal. C'est comme les intérêts d'emprunt, ils ont aussi le levier fiscal. Donc finalement, le propriétaire bailleur qui va en fait subir une augmentation à la fois de la taxe foncière et à la fois des taux d'intérêt, mais finalement, en fait, il va encore récupérer de l'argent par le biais des impôts avec le levier fiscal. Et je précise également qu'il y a beaucoup de propriétaires privés qui font du déficit, qui font de la machine à déficit foncier, et que finalement, en fait, ils ne payent jamais d'impôts sur le revenu par rapport à tout ça. Donc, moi, je ne veux pas trop m'apesantir sur les propriétaires.
Réponse de Christophe Demerson.
J'invite Eddie Jacquemart à venir dans une assemblée générale et il verra que les propriétaires, justement, ce n'est pas des pétroliers. Aujourd'hui, je viens de Rodez. Hein, on peut pas, vous auriez vu la population des propriétaires de Rodez, je peux vous dire que ce n'est pas le grand capital. Bon, mais les gens, c'est des gens qui ont un bien, 2 biens à louer, qui font du mieux pour le mettre dans de bonnes dispositions, à la disposition des locataires, qui font des travaux, qui s'investissent. Nous, on conseille toujours aux propriétaires d'entretenir les biens et de faire des travaux. Mais si vous voulez, après les choses, quand on dit oui, ils les déduisent, d'accord, oui, ils déduisent les impôts fonciers. Mais il ne faut pas oublier, je vous dis déjà, 2,3 mois d'impôts fonciers, 17,6% de prélèvements sociaux et l'impôt sur revenu. Après, je ne vous dis pas, après, il faut payer, comme vous dites, les assurances, les travaux. Donc, en gros, on va dire que c'est 50% du loyer. Sur un loyer à 500 euros, il y a 250 euros pour le propriétaire. Donc, je veux dire, la machine à cash, elle tourne dans les deux sens. Parce que si l'État tourne aujourd'hui, c'est parce qu'il prélève. Et les propriétaires, d'une manière générale, sont une vache à lait. C'est vrai qu'on le déplore. Parce que le discours moraliste, il est un petit peu facile. Et nous, on est là justement pour conseiller les propriétaires et pour qu'ils ne perdent pas le moral.
Guillaume Mottier.
De toute façon, s'il y a des locataires, c'est qu'il y a des propriétaires en face. Évidemment, il y a bien quelqu'un qui est propriétaire.
C'est comme
de
la mobilité.
Kilo.
Je dis toujours, il n'y a pas de mobilité
sans
locataires.
Il peut y avoir des bailleurs publics
et donc,
aussi. Hein.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, c'est sûr, nous, on fait d'ailleurs chaque année une étude qui s'appelle Acheter ou louer. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'en fonction des villes, jusqu'à 5 ans, 6 ans, à Paris, par exemple, si vous envisagez de garder votre appartement, on va dire 5 ou 6 ans, eh ben, c'est intéressant d'être locataire. Au-delà, c'est plutôt intéressant d'être propriétaire. Donc, on voit qu'effectivement, ça dépend des régions. Dans certains cas, il vaut mieux être locataire, notamment si on veut déménager rapidement.
Alors, il y a une question inhérente qu'on n'a pas encore abordée, enfin, très peu, c'est la question des assurances. Parce qu'il y a les taux, effectivement. On parlait actuellement, pour les plus chanceux, 1,45, 1,50. On est plutôt 1,60, 1,70 maintenant. Et puis à cela, il faut aussi rajouter les taux d'assurance qui parfois sont à coup de massue.
Alors ça, c'est un sujet très important. Nous, on s'appelle meilleur taux, donc le taux est important. Mais notre métier, quand on accompagne nos clients, c'est bien sûr de regarder l'ensemble des éléments, dont l'assurance emprunteur. De ce point de vue, il y a quand même eu des progrès, parce que la loi a changé et elle permet aux gens de changer d'assurance emprunteur, soit au moment où ils font leur crédit, soit plus tard. Et il y a une garantie qui est très importante, qui est posée par la loi, c'est que le nouveau contrat, on appelle ça une substitution d'assurance emprunteur, ou une délégation, c'est le même mot à peu près, eh bien, le nouveau contrat doit être au moins aussi protecteur, doit assurer les mêmes risques que l'ancien. Et donc c'est important parce que ça ne se fait pas au détriment de la protection. Et donc ça, c'est un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs. Quand vous parlez avec votre banque, quand vous parlez avec un courtier de votre projet Crédit Mo, évidemment, vous devez regarder le taux, mais vous ne devez pas regarder que le taux. Vous devez aussi parler d'assurance emprunteur. Alors, quand on est jeune, on a plus intérêt à changer d'assurance emprunteur que quand on est un peu plus âgé. Mais même quand on est plus âgé, on peut obtenir soit un meilleur tarif, soit parfois aussi une meilleure protection, parce qu'on peut avoir envie de se protéger contre, par exemple, le risque de perte d'emploi, contre d'autres maladies. Peut-être que le contrat groupe, c'est-à-dire le contrat de la banque, ne protège pas ces risques. Et c'est une très bonne discussion à avoir avec le professionnel qu'on a en face de soi. Donc l'assurance, c'est très important.
Dernière chose, parce que d'habitude, ça va de pair. Il y a une sorte de vase communicant entre les prix du bien et le taux d'emprunt. Là, on a vu que les taux ont augmenté. En ce qui concerne en tout cas la région parisienne, les prix n'ont pas beaucoup baissé, ou alors vraiment à la marge.
Alors, on n'a pas encore observé, en effet, de baisse des prix. Donc, c'est vrai qu'en théorie, il y a un effet de vase communicant, comme vous dites. Pour l'instant, on ne l'observe pas. Alors, nous, on a toujours dit que finalement, il y avait toujours plusieurs marchés. Le marché parisien, le marché de l'Île-de-France, il a un peu sa propre dynamique. Mmh. Il est vraiment poussé.
Même à l'intérieur du marché parisien, on peut découper.
Oui, il y a plusieurs zones. Il y a des dynamiques un peu spécifiques. Mais c'est vrai que dans certaines zones, on voit que les prix de l'immobilier commencent à être un petit peu plus fragiles. Et donc, ça dépend vraiment des zones.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la plus mauvaise période parce qu'on arrive justement à ce pic où à la fois le prix est élevé et le taux d'emprunt est élevé.
Alors, ce n'est pas la plus mauvaise période pour réaliser le projet de sa vie. C'est-à-dire, si on doit acheter sa résidence principale, si on doit changer de maison parce qu'il y a le petit dernier qui est arrivé, qu'on a besoin d'une pièce en plus, on va pas faire un calcul sur le thème « est-ce que je vais m'enrichir quand je vais vendre ma maison ?» Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est un projet de vie. Et donc, il faut réaliser ce projet de vie. Par contre, c'est vrai que si on a un investissement qui est un petit peu plus patrimonial, qui est plus lié, faut être un petit peu vigilant et il faut négocier un peu plus. La conclusion, c'est qu'il faut négocier un petit peu plus parce que c'est vrai que quand les taux montent, ça peut avoir un petit impact sur le prix de l'immobilier.
Et Jacquemart, sur ces prix qui augmentent également pour les...
Ça sera la même punition pour les locataires parce qu'en fait, je parle des bailleurs investisseurs évidemment, mais ceux qui vont avoir des assurances plus chères, évidemment, ils vont le répercuter sur le prix de revient de leur investissement et du coup ils vont calculer un loyer plus élevé, donc c'est pas une bonne nouvelle en tout cas pour les locataires qui seront concernés par un investisseur privé.
Bon, en tout cas on a bien compris que c'était pas forcément la meilleure période pour investir dans l'immobilier. Pardonnez-moi Guillaume Autier si je vous contredis un petit peu. Guillaume Autier, PDG du groupe Meilleur Taux, merci à Eddy Jacquemart, président de la Confédération Nationale du Logement, la CNL, et Christophe Demerson, le patron de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. 19h56.